remercie pour tous vos travaux. Et nous avons eu la chance que vous lanciez un groupe à la CIPA en 2005, qu'on appelle le groupe 3, voilà, qui est un groupe interdisciplinaire auquel j'ai eu la chance de participer dès le début. Et nous nous sommes réunis, grâce à vous qui animiez ce groupe, dans une perspective transdisciplinaire, où vous nous avez fait goûter certaines théories de disciplines différentes, autres que la psychanalyse, mais aussi des théories psychanalytiques, bien sûr, toujours dans une perspective de discuter en transdisciplinarité, d'abord de connaître certains travaux qui nous sont fort utiles dans notre pratique, aussi bien du côté de la psychologie du développement, du côté des neurosciences, du côté de la psychanalyse, bien sûr. Et en fait, je voudrais citer simplement quelques thèmes. Je ne vais pas pouvoir citer de tête tous les thèmes qu'on a travaillé avec vous, mais c'était toujours un régal de venir à ces réunions le soir. On n'était jamais fatigué après ces réunions, alors qu'on arrivait exténué en général. Un équerre dans le service de Bernard. Merci de nous avoir hébergés pendant toutes ces années aussi. Et en fait, les thèmes qu'on a travaillés, par exemple, c'était les travaux d'Olivier Houdet sur le développement, sur la question d'apprendre à inhiber des stratégies sensorielles. Ils sont tellement difficiles à inhiber chez les enfants autistes qu'ils n'arrivent même pas à se représenter ce qu'ils ressentent. Et du coup, la question de la représentation est toujours difficile pour eux. Qu'est-ce qu'on a eu comme thème ? On a travaillé aussi on a abordé les travaux de Sylvie Le Poulichet, je sais que vous appréciez beaucoup, et elle vous apprécie aussi énormément, sur la question de l'informe et de l'archaïque, des chimères du corps. Nous avons travaillé avec vous aussi les théories de Bruno Gepner sur le ralentissement, sur la notion de vitesse d'intégration extrêmement lente chez de nombreux enfants autistes. Et l'importance de ralentir notre parole, nos gestes, enfin, on a beaucoup travaillé ces questions-là. On a travaillé aussi avec vous les théories de Jacqueline Nadel et toute la question de l'imitation, et qui nous inspire tous les jours. Vous avez beaucoup parlé de Jacqueline Nadel, on a beaucoup entendu parler des travaux de Suzanne Maiello, merci Suzanne, et tous les étudiants, évidemment, vous connaissent aussi, connaissent vos travaux, parce que ça les inspire tous les jours, en fait. Sur la question des rythmicités primordiales, les petits différentiels avec la voix qui apportent une notion d'autre, d'environnement, et qui vont être les prémices d'intersubjectivité. Enfin, je ne vais pas développer tous les travaux que vous développez tellement plus précisément. Qu'est-ce qu'on a travaillé encore avec vous dans ce groupe ? On a travaillé aussi depuis 3 ans, on a travaillé avec Katia Dauchaud, qui venait à ces groupes et qui commentait d'un point de vue neuro des travaux qu'on présentait sur des cas cliniques. C'était toujours passionnant parce qu'on avait le point de vue neuro, on avait le point de vue psychanalytique de Geneviève et on avait des réflexions qui étaient créatives dans ce groupe. Enfin, on s'est tous régalés de tous ces moments plus intéressants les uns que les autres. Alors, je vais surtout dire aussi, ça a été beaucoup dit dans cette journée, mais c'est le thème de votre livre, que le fil rouge de tout ça, c'était la rencontre avec les enfants autistes. Et puis la rencontre et l'intérêt pour la question qu'ils se sentent être dans leur corps et puis exister dans la relation. Et le fil rouge, ça a été aussi le repérage de la construction du moi corporel. Et nous avons appris avec vous, grâce à vous, à observer très finement les étapes de construction, déconstruction, démantèlement, remantèlement, qu'on a pu décliner d'une façon extrêmement précise grâce à votre apport. Voilà. Donc un grand merci pour toutes ces étapes de l'image du corps qu'on arrive de mieux en mieux à repérer, avec évidemment l'arrière-plan qui se co-construit avec le regard, et ce regard qui se lance dans l'espace pour former des boucles. Vous nous avez bien montré comment ça crée de l'espace, une expérience d'espace, et quand elle était partagée, eh bien c'était de l'espace qui devenait de la mémoire d'espace, en fait. Vous n'avez pas appelé ça comme ça, moi j'aime bien appeler ça de la mémoire d'espace. Dès que c'est partagé, il y a quelque chose qui s'inscrit, un espace qui commence à exister aux endroits où ça a été partagé. Donc la structure radiaire de contenance, ça nous inspire tous les jours, parce que je trouve que c'est vraiment une théorie extrêmement féconde dans la mesure où on comprend mieux la co-construction de la relation, de l'image du corps et de l'espace. C'est cette théorie, je trouve, qui démontre le mieux cette co-construction de la relation, de l'espace et de l'image du corps. Alors, vous nous avez fait goûter aussi le plaisir de l'interdisciplinarité et vous nous avez rendu flexibles dans notre tête pour arriver à jongler d'une théorie à une autre. Et je vais peut-être me cibler sur une théorie qui m'a particulièrement passionnée, enfin un croisement qui m'a particulièrement intéressée. Ce sont évidemment vos travaux avec les travaux d'André Bullinger. Alors on en a beaucoup parlé. Et je vais plutôt parler de ces croisements, de ces deux théories, et aussi de la théorie avec Alain Berthoz, qui a travaillé sur l'empathie. On avait travaillé sur l'empathie dans ce groupe aussi. Et Alain Berthoz, je vous rappelle très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas bien, des idées qui me paraissent vraiment clés, qui vont rejoindre tout à fait l'intérêt de la structure radiaire de contenance. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alain Berthoz, en étudiant la différence entre la sympathie et qui travaille beaucoup avec les neurones miroirs, l'effet miroir comme ça, il a différencié sympathie et empathie, et dans l'empathie il s'est aperçu qu'il y avait une dimension de mouvement dans l'espace, c'est-à-dire que pour être empathique avec quelqu'un, il faut, comme dirait Alain Berthoz, se déplacer virtuellement dans l'espace, traverser l'espace, donc faire un mouvement de traverser de l'espace, et puis se retourner au niveau de la personne avec qui on essaye d'être empathique. Et puis après, il y a une sorte de flexibilité entre le point de vue de l'autre et son propre point de vue. C'est à peu près ça, l'empathie, pour dire vite. Et en fait, Alain Berthoz s'est intéressé à un niveau neuro pour savoir quelles étaient les zones du cerveau qui traitaient des mouvements dans l'espace. Il s'est aperçu... et ça va me passionner. Il s'est aperçu qu'en fait, il y avait quatre zones dans le cerveau qui sont indépendantes, qui traitent indépendamment de certaines couches de l'espace, qui seraient des zones d'espace qui auraient un bord, et un premier bord qui s'arrêterait à 10 cm. Et vous reconnaissez toutes les stéréotypies qui vont chercher sans arrêt des bords à 10 cm. C'est-à-dire qu'on voit que les personnes autistes qui ne se sont pas construites dans la relation vont être sans arrêt en quête de la recherche de bord de cette première zone essentiellement que Berthoz a appelée l'espace corporel. Et puis il s'est aperçu qu'il y avait une autre zone du cerveau qui n'a rien à voir avec celle qui traite des informations spatiales de la précédente, qui traite des informations de la zone suivante, de 10 cm jusqu'à bras tendu, c'est-à-dire à peu près 70 cm. Donc il y a une deuxième couche de l'espace qui va être investie et qui va être traitée dans le cerveau par une autre zone du cerveau qui traite exclusivement ces informations spatiales de 10 cm jusqu'à 70 cm. Alors tout de suite, on voit l'intérêt de croiser avec ces théories avec la question de la structure radiaire que vous avez développée, c'est-à-dire quand on se lance dans l'espace, eh bien, on se lance à quel niveau? Est-ce qu'on se lance loin ou près quand on va rencontrer l'autre dans le regard? Eh bien, en fait, si on comprend mieux jusqu'où on regarde en fonction de son âge ou de ses expériences, eh bien, en fait, on va tout d'un coup s'intéresser aux théories des Bullingériens, les théories de Bullinger, qui va finalement décrire les différentes expériences toniques et sensorielles des grandes étapes psychomotrices de l'enfant, c'est-à-dire de 0, pour dire vite, de 0 à 6 mois, finalement, il va y avoir plein d'expériences dans le tout près, quand on est encore en appui, dans son berceau, dans les bras, sur le tapis de jeu. En fait, on a beaucoup d'expériences, qu'on regarde sa main, qu'on regarde sa mère tout près, enfin, on a beaucoup d'expériences tout près, eh bien, ça va construire l'espace corporel. Je trouve qu'il y a des correspondances très intéressantes entre les travaux de Bullinger et les travaux d'Alain Berthoz et les vôtres. Donc j'ai eu le plaisir d'imaginer, vous m'avez inspiré pour imaginer, j'ai souvent eu ça dans ma tête, j'espère que je réaliserai un jour, j'aimerais imaginer une sculpture ou alors un dessin animé, je ne sais pas, qui pourrait traduire ce que c'est que d'investir que d'investir l'espace quand on est de 0 à 6 mois, c'est-à-dire qu'on lance des boucles vers sa mère, vers sa main, vers le tapis, vers son coussin, vers son petit mobile, enfin des expériences tout près. Et en fait, quand ces expériences sont en synchronie avec l'attention conjointe de la mère et que le bébé est capable d'être en synchronie avec sa mère, c'est-à-dire s'il n'a pas de troubles sensoriels, ben on peut réimaginer que ces expériences partagées vont créer de la mémoire d'espace, de toutes ces boucles, c'est de la mémoire d'espace qui va durer longtemps si ça a été partagé, mais qu'on pourrait imaginer qu'il s'auto-efface au fur et à mesure que c'est vécu si ça n'est pas partagé. C'est le cas des enfants autistes qui font leur stéréotypie, leurs expériences sensorielles, parce qu'ils font plein d'expériences sensorielles, mais tant que ce n'est pas partagé, parce qu'on n'a pas toujours l'idée de partager quand c'est très répétitif, très stéréotypé, mais tant que ce n'est pas partagé, vous imaginez qu'à chaque fois qu'il y a une belle boucle d'investissement sensoriel, visuel par exemple, ou auditive, eh bien si ce n'est pas partagé, ça s'auto-efface après. Donc 2 secondes après, il faut recommencer. Donc j'aimerais imaginer de présenter ça un jour, je ne sais pas, avec quelqu'un qui fait du film d'animation, comment la structure radiaire, elle se décline selon les différentes zones de l'espace. Et je pense que la structure radiaire de contenance, elle pourrait se dessiner. Je vais la dessiner, vous allez en avoir des, comme on le partage, vous allez forcément avoir des traces de mouvement de ce que je fais. C'est-à-dire que si je partage dans du tout près, vous voyez que si vous le partagez avec moi, si vous partagez ces boucles de retour avec moi, dans du tout près, que vous me disiez « Oh, elle est jolie ta main, oh mais oui, c'est tout, ah, ben, oh c'est brillant, oh c'est magnifique, etc. » Eh bien tout ça, ça crée de la mémoire d'espace, c'est-à-dire la structure radiaire de contenance tient dans la durée. Imaginons que je sois autiste, que vous n'ayez pas l'idée de partager parce que je fais toujours la même chose, eh bien toutes ces expériences qui sont les mêmes expériences au départ, eh bien ça s'auto-efface au fur et à mesure. C'est pathétique, je trouve, d'imaginer ça. Et donc, il faut absolument comprendre l'importance que nous avons auprès des enfants dans le partage émotionnel, ce que vous avez tout à fait décrit dans votre travail de structure radiaire de contenance. Dans le deuxième espace que décrit Berthoz, c'est l'espace qu'il a appelé l'espace de préhension, qui va correspondre pour les bulingériens à l'espace du buste, c'est-à-dire ce sont toutes les expériences sensorimotrices du bébé de 6 mois à 1 an qui essaye de s'asseoir, de créer sa verticalité et puis d'attraper des jouets, c'est-à-dire d'avoir ce que vous avez appelé tout à l'heure l'espace de préhension et l'espace du torse, c'est-à-dire qu'on acquiert non seulement une verticalité, mais en plus on acquiert le plaisir d'attraper des choses jusqu'à bras tendus. Et vous imaginez que toutes ces expériences que je suis en train de faire, si elles ne sont pas partagées, que je les fais d'une façon très autistique et répétitive, ça ne va pas vous donner envie de partager avec moi, eh bien ça s'auto-efface au fur et à mesure. Ces traces de mouvement dans l'espace s'auto-efface au fur et à mesure. Si vous partagez avec moi, ça va faire des traces d'espace. Ça va faire de la mémoire d'espace. Et on imaginerait du coup une deuxième couche de structure radiaire qui s'arrêterait à 70 cm. Donc j'imagine des boucles de retour d'une structure radiaire jusqu'à 10 cm, et puis une deuxième étape jusqu'à 70 cm. Et on voit que quand ce n'est pas partagé, eh bien, les enfants sont confortables quand ils ont des bords. Donc ils vont sans arrêt convoquer la recherche de bords. Alors à 10 cm, ça va être toutes les expériences de stéréotypie visuelle qui sont essentiellement à 10 cm. Et puis, quand on découvre l'espace de préhension, il va y avoir plein de stéréotypies ou alors de mouvements jusqu'à bras tendus. Et si nous partageons ça avec les enfants autistes, même si c'est très répétitif, très restreint et voilà, que ça nous intéresse a priori pas beaucoup au départ, mais si on s'extasie avec eux sur leur intérêt de se réguler comme ça, de retrouver un fond de cet espace de préhension, eh bien en fait ces boucles de structure radiaire de contenance vont s'inscrire dans la durée et ça fait de la mémoire d'espace, c'est-à-dire qu'on a une double zone d'espace déjà qui se crée. Alors Berthoz en a décrit une troisième zone, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas 50, il y a une troisième zone de l'espace qui va correspondre chez les bulingériens à l'espace de la locomotion, c'est-à-dire quand l'enfant commence à marcher à partir d'un an à peu près. Alors je passe le 4 pattes, mais on sait qu'il n'y a pas beaucoup de 4 pattes chez les enfants autistes, qu'il n'y a pas beaucoup de 4 pattes de moments intermédiaires, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articulation des jambes encore. Et en fait, on peut imaginer, selon les théories de Berthoz, que, enfin, il nous explique en tout cas qu'il y a une troisième zone dans l'espace qui est traitée par une autre zone dans le cerveau complètement indépendante des deux autres précédentes et qui va traiter toutes les informations de 70 cm jusqu'au bord qui sont les murs, les portes, le plafond, le sol. Hein. Comment ? Les seuils, voilà. Mais c'est un. Moi, je ne parlerai pas uniquement des seuils de porte, je parlerai de trois zones, trois seuils d'espace. Et quand on imagine que les enfants autistes vont passer leur temps à tourner autour des murs, à toucher les parois, à tapoter les surfaces, à se jeter d'un mur à un autre à toute vitesse, pour essayer d'expérimenter les bords et les fonds de ces boucles relationnelles qui normalement se partagent, eh bien, vous imaginez comme ça va être important le jour où on va se rendre compte que c'est important de partager, comme vous le faites dans votre clinique et comme nous le faisons nous aussi maintenant. C'est-à-dire de partager l'intérêt de l'impact pour vérifier les bords de l'arrivée de cette troisième zone de l'espace. Que l'espace soit petit ou grand, il ne faut pas qu'il soit immense, il ne faut pas que ce soit un gymnase non plus, mais si c'est un espace qui est une pièce qui est petite ou grande, le but c'est d'arriver à en repérer les bords. C'est-à-dire le seuil. Hein. Donc vous imaginez que déjà, Berthoz nous aide à préciser la structure radiaire de contenance sans qu'il le sache. Il vous transmet un grand bonjour. Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Il a un très beau souvenir de la rencontre avec vous au Collège de France. Donc il vous transmet toute sa sympathie. Voilà. Il attend avec impatience de vous lire aussi. Et en fait, vous imaginez que quand on partage toutes ces stéréotypies qui sont souvent des recherches de bord, soit à 10 cm, soit à 70 cm, bras tendus, soit au niveau des murs, du plafond, des portes et des fenêtres, eh bien, si on partage ça, on va faire de la mémoire d'espace, de la mémoire de bord de ces trois zones-là, en fait. Et Berthoz nous raconte qu'il y a encore une dernière, quatrième zone dans le cerveau qui traite de l'espace, des informations spatiales, qu'il appelle l'espace lointain. Et l'espace lointain, c'est tout ce qui correspond à au-delà des fenêtres, c'est-à-dire quand on regarde par la fenêtre, comme des enfants autistes vont passer des heures à regarder par la fenêtre, à regarder les feuilles qui bougent doucement, ou le bus qui passe, ou enfin, voyez, toutes ces choses-là. Eh bien, ça, c'est une autre zone du cerveau qui traite ça, à partir des fenêtres jusqu'à l'espace lointain. Alors, tout ça pour dire que, du coup, ça fait encore une autre structure radiaire qui pourrait se partager dans l'espace lointain. Donc on aurait une structure radiaire selon quatre zones et qui créerait finalement une première contenance, une première entourance à 10 cm, une deuxième entourance à 70, une troisième avec des bords et des seuils au niveau des portes, des fenêtres, l'espace de la pièce. Et puis une quatrième zone qui serait l'espace lointain, en fait.
Avec l'horizon.
Avec l'horizon. Et surtout, ça va faire des boucles de retour si on est en attention conjointe, comme vous nous l'avez souvent conseillé de le faire, c'est-à-dire d'être derrière l'enfant et puis de regarder la fenêtre par la fenêtre ensemble, puis de temps en temps se repérer dans la vitre en reflet, enfin de jouer un peu avec tout ça. Alors quand j'imagine un dessin animé, un film d'animation plutôt, j'aimerais faire deux films d'animation, un avec la structure radiaire quand elle est partagée et un avec une structure radiaire quand elle n'est pas partagée. Vous imaginez par exemple que si c'était partagé, eh bien c'est comme si toutes les traces dans l'espace, ça deviendrait de la lumière par exemple, ça éclairerait l'espace. Et toutes les expériences accumuleraient de la mémoire d'espace. Et plus c'est partagé, plus on est après dans un espace qui est habité, qui est lumineux en fait. Et si on n'arrive pas à partager parce qu'on n'arrive pas à être en synchronie, on a trop sensoriel, on est autiste, et, ou alors on n'intéresse personne parce qu'on a des mouvements répétitifs et on appelle ça des comportements problèmes, c'est quand même dommage parce que c'est quand même une occasion de rencontre, tous ces comportements répétitifs. Eh bien en fait, tant que c'est partagé, ça fait de la lumière d'espace et de la mémoire d'espace. Quand c'est pas partagé, vous imaginez que chaque expérience est quand même intéressante, mais ça s'auto-efface, donc ça s'éteint. Donc c'est pathétique, je trouve, de penser comme ça. Et si tout d'un coup, il y a une personne qui s'intéresse à l'enfant, eh bien s'il partage en attention conjointe, tout d'un coup, ça va faire de la mémoire d'espace, et la structure radiaire ne s'auto-efface pas au fur et à mesure qu'elle se construit. Donc voilà ce que vous m'avez inspiré dans cet intérêt pour l'interdisciplinarité. Et du coup, je trouve que ça nous donne des idées au niveau clinique pour partager avec l'enfant non seulement des expériences spatiales, que ce soit près, dans l'espace de préhension, dans l'espace de locomotion, dans l'espace lointain, mais ça nous aide à nous représenter que, par exemple, dans le développement normal, nous avons eu la chance de pouvoir faire plusieurs choses dans notre tête à la fois, et de pouvoir composer avec ces quatre espaces, avec ces quatre zones du cerveau qui peuvent donner un relais entre, on peut regarder du près, de l'espace de préhension, on peut regarder très loin, on regarde par la fenêtre, puis on revient dans du tout près. On a une flexibilité pour pouvoir faire c'est pas de la co-sensualité, mais ça revient un peu au même, de la liaison et des relais entre chacune de ces zones de l'espace. Les enfants autistes, quand ils sont démantelés sensoriellement, eh bien, ils sont aussi dans une perte de liaison, à la fois au niveau entre les parties du corps, à la fois entre la sensorialité, ça c'est le démantèlement sensoriel, mais il y a une perte de liaison entre les parties du corps, ils investissent une partie au détriment du reste, ils ne savent pas passer d'une zone à une autre, c'est pour ça qu'on va leur dire « Ah, on a oublié les jambes, ah, mais sont où les jambes ?» Et puis en fait, on va les entraîner à être un peu plus flexibles d'une zone à une autre. Et en fait, au niveau de l'espace, on gagne beaucoup, je trouve, à repérer dans quelle zone de l'espace ils sont très à l'aise et comment on peut accompagner au hasard des intérêts sensoriels, au hasard d'un bruit, d'un mouvement, de quelqu'un qui sort, quelqu'un qui tousse ou je ne sais pas quoi. Et en fait, il y a des passages qui se font d'une zone à une autre. Et le problème, c'est que les enfants autistes ne traitent qu'une zone à la fois et ne savent pas avoir une vue d'ensemble. Ce qui fait qu'ils sont en panne, on comprend le vertige de la falaise que vous décriviez. Quand on quitte le seuil de la porte, eh bien, il y a une falaise de l'autre côté parce que le pont entre les zones n'existe pas. Il y a une sorte de vide, d'absence, enfin de néantisation qui est vertigineuse et qui donne des vertiges incroyables. Et... Alors ce qu'il y a, c'est que si vous imaginez que quand il n'y a pas de pont facilement d'une zone à une autre, eh bien, notre relation partagée, émotionnelle, va créer une mémoire d'espace, eh bien, on crée des ponts d'une zone à une autre quand on accompagne entre le près et le loin et le moyennement loin, le dehors et le tout près. Et en fait, on va entraîner une création de mémoire d'espace à des endroits qui font des ponts qui n'existent pas autrement psychiquement parce qu'il n'y a pas de représentation de tout ça, ce qui fait que on va mettre des ponts partout. Et quand on partage tout ça, ce qui est formidable, c'est que ça tient dans la mémoire et après l'enfant peut réinvestir la flexibilité d'une zone à une autre tout seul parce qu'on l'a partagé avec lui. Donc voilà un peu mon programme de travail avec certains enfants autistes. Et je crois que j'ai encore deux petites minutes. Une minute. Alors je vais vous raconter une petite vignette clinique du petit Lilio que je suis depuis trois semaines. Un petit garçon absolument mais magnifique, qui a 5 ans et demi, qui ne parle pas. Son éducatrice m'a dit, ben, je ne sais pas quoi faire avec lui, il ne s'intéresse à rien. Et je vois Lilio qui regarde le bouton de porte qui brille. Il fonce de l'autre côté de la pièce, il regarde un endroit contrasté, il fonce, il y avait trois endroits dans la pièce qui étaient des points de repère, des invariants. Je dis, je crois qu'il s'intéresse vraiment au bouton de porte, à la lumière là-bas. Ce que tu peux faire, c'est peut-être simplement t'extasier. Oh, le bouton de porte, oh, ça brille, oh, c'est joli. Oh, puis il y a là-bas. Bon, en fait, partager. Et en fait, une fois que c'est partagé, eh bien, en fait, ça va faire une expérience partagée qui va tenir et qui va créer après une exploration nouvelle, une image du corps qui est meilleure, etc. Et après, l'éducatrice me dit, et puis il ne parle pas. Et je vois le petit Lilio qui arrive vers moi et qui fait coulou coulou, coulou coulou coulou. Alors, je me demandais de quelle langue maternelle étaient les parents. Je pensais que c'était sûrement un dialecte africain. Le papa était très très fier quand je lui ai dit qu'il commençait à s'exercer avec le bambara, puisque c'était la langue du père. Il était très fier. Ah bon, il a bien choisi, alors m'a-t-il dit. Et en fait, l'enfant s'exerce avec des sons comme ça, quand c'est partagé, quand on a l'a priori que cet enfant apprenait trois langues en même temps, puis sa mère est créole, le père, il a une autre langue et il parle le français, eh bien, finalement, on est plein d'espoir. Voilà. Et ce petit garçon, qu'est-ce qu'il faisait? Je vais terminer là-dessus. Eh bien, en séance, il traverse l'espace à toute vitesse parce qu'il a peur de l'espace. Et il est à peu près à l'aise dans du tout près. Donc il a les deux mains où il regarde à tout près, comme ça, les deux mains en même temps. J'ai le micro, donc je ne sais pas le faire. Mais vous imaginez que les deux mains, il regarde dans son creux, le creux de la main pour se rassurer. Évidemment, je ne manque pas de chuchoter. « Oh, ben oui, heureusement qu'il y a les mains, là, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la pièce, etc. » Et à ce moment-là, je vois le petit Lilio qui se redresse, ce sursaut tonique qu'on repère quand il se sent concerné, qui se redresse, qui me regarde, j'étais un peu plus loin que les 10 cm, hein, et qui me regarde, et quand il me regarde, il sautille, et puis commence à articuler ses jambes entre la pointe des pieds, il fait le ressort et il a une tonicité magnifique. Et je lui dis, mais c'est formidable, tu sautilles à ce moment-là, et bien t'es tout droit, t'es bien vivant, t'es bien joyeux, ça c'est formidable, t'es bien solide. C'est plus facile parce que dans l'espace, c'est pas très facile de traverser la pièce. Et il me regarde, il fait oïk, vous voyez, il fait un son glissando, voilà, qui part du bas du corps jusqu'en haut. Et en fait, c'est un enfant, voilà, je pense qu'il va bientôt parler, j'espère. Enfin, en tout cas, il communique déjà beaucoup de choses. Et puis, je pense qu'on ne renonce jamais, quel que soit, quand on vous a rencontré, on ne renonce jamais, quel que soit l'état de l'enfant, à le rencontrer et puis à ce qu'il se passe quelque chose, en fait. Et tout est occasion de dialogue. Donc, voilà.